Mesdames, messieurs, bonjour, c'est Jacques avec vous jusqu'à la demi sur CFM Radio pour le magazine où il sera question aujourd'hui du nouvel ouvrage de Paul Sanda qui s'intitule « Où est sang ?»« L'ermitage des grands vents », un ouvrage qu'il présentera en conférence à la Maison Fonds Pérouse de Cordes-sur-Ciel ce samedi à 17h30. Un ouvrage écrit à quatre mains avec son fidèle compagnon de poésie et d'écriture, le breton Bruno Genest. Paul Sanda, que l'on retrouve en seconde partie de ce magazine. On sera aussi en compagnie de Rémi Kulik du Jardin des Merveilles de Vaour dans Plantes et Histoires de Plantes aujourd'hui, où il sera question du stress hydrique. Et oui, la sécheresse effective et annoncée est bel et bien là, et donc quelques conseils pour apprendre à jardiner et quelques conseils aussi pour faire face à cette sécheresse-là, sachant que en même temps où l'ONU est en train de tenir une conférence internationale, pour ne pas dire mondiale, sur cette pénurie d'eau qui est annoncée. Et donc, oui, on prend les devants sur CFM Radio et on en discute dans quelques minutes avec Rémi Kulik dans ce magazine qui démarre en musique. Voici Gloria Jones, Tainted Love.
CFM Cordes, CFM, l'esprit rock.
Comment s'en sortir dans son potager, dans son verger, lorsque les quantités d'eau sont moins en volume que prévu, qu'attendu, qu'espéré? Eh bien, c'est de ça dont on va parler aujourd'hui dans Plantes, Histoire de Plantes avec Rémi Kulik du Jardin des Merveilles de Vaour. Salut Rémi.
Salut, bonjour à tous.
On en parlait lors d'une précédente chronique, on le voit, ou en tout cas on le ressent depuis des mois, des années, un manque d'eau qui se fait ressentir malgré les pluies qui peuvent tomber par-ci, par-là, qui nous donnent l'impression qu'il pleut, mais lorsqu'on regarde en quantité globale, il y a très peu d'eau, ça il faut le reconnaître.
Ah ouais, cette année, il y en a vraiment très très peu. Et je me dis, on a l'impression que ça tombe, mais je connais pas grand monde là cette année qui a l'impression qu'il en tombe beaucoup. C'est quand même vraiment flagrant cette sortie d'hiver.
Moi, je pense que les personnes qui sont en dehors, on va dire, de la vie agricole qui sont proches de ça, pensent qu'il pleut. Parce que, je te dis, le fait d'avoir une pluie par mois qui tombe toute la journée, tu te dis, il a plu assez en fait pour le mois, ou de voir qu'il y a de la boue plus ou moins autour de soi quand on va un peu à la campagne, tu vois.
Puis quand on en a besoin de la pluie, vraiment, le nez dedans, on regarde quand ça tombe pas. C'est vrai que quand c'est pas notre métier, c'est peut-être moins important.
Mais Partager ça avec vous, j'ai eu l'occasion pour les besoins de la radio de m'entretenir avec par exemple le syndicat mixte Sierre Ouvert, hein, qui gère le Sierrou et la Vert, hein, les principales rivières qui traversent le nord du Tarn. Et il me disait qu'il n'avait jamais vu ça, qu'il n'avait jamais vu le Sierrou aussi bas. Alors on a l'impression qu'il y a de l'eau parce que en amont il y a un barrage qui relargue de l'eau pour maintenir un certain volume d'eau et permettre aussi aux poissons et tout ça de vivre. Mais en fait, il n'y a pas d'eau qui tombe, donc c'est un gros problème. Ouais.
J'étais dans la Drôme il n'y a pas longtemps, pareil, là, les rivières sont complètement à sec à certains endroits. Donc, même ceux qui ne sont pas du métier, si vous voulez aller vous baigner dans les rivières cet été, vous verrez bien que
ouais, là, y a
sans eau, ça influe sur beaucoup de choses. Ouais.
Bon alors... par contre, nous, on doit être là pour donner des conseils aux gens pour faire un potager, pour entretenir leur potager, peut-être qui existe déjà. Comment est-ce qu'on peut le faire alors qu'on sait que s'il n'y a pas d'eau, ben, c'est très difficile d'avoir un potager qui vaille le coup.
Ah ben, sans eau, le potager, alors même le terme professionnel, quand on fait des grosses quantités, c'est maraîchage. Le terme maraîchage vient... des zones dans lesquelles on produisait des légumes avant, on cultivait dans les marais, donc les zones humides, et les marais, enfin le terme a donné le terme maraîchage. Donc sans eau, effectivement, on ne va pas pouvoir faire grand-chose. Donc c'est le facteur, c'est ce que je dis même par rapport à mon projet en particulier, le facteur limitant, le premier, c'est l'eau. C'est la quantité d'eau qu'on arrive à stocker qui va définir qu'est-ce qu'on pourra faire pendant l'été.
On a commencé à en parler lors de la précédente chronique, on va le rappeler, ça ne fait pas de mal. Hein. Déjà, il faut la première chose, et presque ça devait être obligatoire, moi je dirais ça, en tout cas obligatoire, au moins à la campagne, de se dire les récupérateurs d'eau, ça devrait être obligatoire, non?
Alors obligatoire, je ne sais pas, ça fait rebondir sur plein de trucs, mais moi personnellement, je dirais oui. C'est même quelque chose qu'on a fait avec ma mairie, je suis élu sur ma commune à Vaour, et un des premiers projets qu'on a fait avec ma commission, ça a été d'acheter des cuves d'eau et les revendre à moitié prix aux habitants pour qu'ils puissent... Alors après, ça avait une raison pour nous personnellement, hein, c'est que nous, on a un réseau d'eau qui est souvent... On a souvent des restrictions pendant l'été et on se dit que si les habitants peuvent stocker un petit peu d'eau de pluie pour leur potager, ça fait toujours ça de moins de prix sur le réseau. Et bon, du coup, voilà, ça peut être plus intéressant de le faire comme ça. Mais oui, stocker de l'eau et pour ne pas arroser avec l'eau du réseau, ça devrait être... obligatoire.
Oui. Obligatoire, ben oui. Arroser avec de l'eau de pluie qui s'est écoulée par la gouttière et sans rien faire tombe dans un récupérateur d'eau après, que ce soit par un système autorisé ou par l'arrosoir qu'on vient le chercher pour arroser son potager. Mmh. Ben je trouve ça assez simple. Ensuite, en termes de conseils, là on va rentrer un peu plus dans le cœur du problème ou en tout cas commencer à donner des conseils. Est-ce que toi tu t'es déjà intéressé par exemple à l'agriculture en zone aride pour aller essayer de choper des astuces ou des conseils, que ce soit en termes de plantation ou d'espèces de variétés de plantes?
Alors ben complètement, je dirais peut-être en exagérant un peu, mais je suis sur une zone aride. Je suis sur ce qu'on appelle l'Écosse du Quercy. Alors Vaour en plus, on est un petit peu en altitude. J'ai pas de puits, j'ai pas de rivière, j'ai pas de ressources en eau. Alors je suis connecté avec la ferme des voisins pour prendre un peu d'eau dans le puits. Mais eux, ils l'utilisent et du coup, là, ça fait quand même quelques années que l'été, le puits est à sec. Donc je m'intéresse un petit peu à comment bien gérer son eau. Il y a des trucs vraiment pratiques à faire, enfin, comment stocker de l'eau, comment cultiver ses plantes, comment les enraciner, tout ça. Mais il y a aussi des méthodes un peu de fond, je dirais, pour limiter nos besoins avant de comment dire, rentabiliser l'eau qu'on a. C'est déjà limiter les besoins en eau.
En faisant quoi?
Et alors, ce qui va assécher beaucoup pendant l'été, c'est le vent. Donc déjà, limiter les vents pour freiner l'assèchement. Alors, il y a des brise-vents artificiels qu'on peut installer, mais mettre des plantes, des arbres et faire des un peu hautes, large, dense, avec beaucoup de végétation pour limiter les vents, mettre en amont et en aval des vents dominants ou des vents réguliers. Donc moi je dirais même tout autour de nos parcelles, on va mettre des haies. Là je fais un petit parallèle sur d'autres intérêts que ça peut avoir par rapport à la biodiversité, ça va faire des corridors écologiques où les animaux pourront se déplacer. Mais voilà, pour revenir sur les vents, ces vents freiner le vent, humidifier le vent. Le vent, en passant par les plantes évaporent de l'eau, donc l'air sera un peu plus humide, et donc limiter les besoins en eau de nos plantes cultivées. Donc ça, déjà, c'est hyper important. Et ensuite, agir sur la capacité de stockage de nos sols en eau. Et donc ça, l'argile joue un petit peu ce rôle-là, mais dans tous les sols, ce qui va améliorer ce rôle, ça sera la matière organique. Donc avoir le plus possible de matière organique dans nos sols, c'est hyper important. Donc rajouter, utiliser beaucoup de paillage, mettre des paillages de plus carbonés possible. Donc la tonte d'herbe, par exemple, c'est pas du tout carboné. La paille, c'est un peu mieux. Les feuilles mortes, c'est encore mieux. Le broyat de bois, c'est encore mieux. Et donc ça, en se décomposant, mais pas totalement, ça va faire de l'humus qui va rester dans le sol et qui va jouer le rôle d'éponge. Donc plus on va avoir d'humus dans le sol, plus ça va stocker l'eau.
Que penser du carton? J'ai vu ça chez certaines personnes où il y a du carton qui est carrément posé sur de la paille aussi.
Mmh. Alors le carton, ça sera plus une petite astuce, je dirais, ça sera pas sur un truc de fond, ce sera plus une petite astuce pour limiter l'évaporation du sol. Ça va pas augmenter le taux de matière organique du sol, ou alors très très peu, puisque quand on met du carton, on met une couche de carton et c'est pas si épais que ça. Quand on fait un paillage avec du broyat de bois, déjà c'est encore plus carboné que le carton, et surtout on met un peu plus d'épaisseur. Mais pourquoi pas? Et en plus, les vers de terre adorent le carton. Ils sont d'horizon. Oui, ça peut aider, ça freine l'évaporation du sol. Donc, si on n'a pas beaucoup de paillage à disposition et qu'on veut limiter l'évaporation du sol quand il fait soleil, oui, le carton, ça fait partie des classiques, ouais.
Alors, toujours pas simple de réagir, on va dire, du jour au lendemain comme ça, mais dans les strates de culture, on peut aussi réfléchir à une certaine stratégie pour éviter qu'il y ait soit trop d'évaporation ou alors pour limiter un peu les arrosages que l'on a à faire.
Alors, je sais pas exactement qu'est-ce que t'as derrière la tête avec cette question. Non, mais... Moi, ce que ça me fait penser, c'est dans les strates, donc plusieurs hauteurs de plantes, si on reste sur le potager, c'est au niveau du sol, mais à côté, il va y avoir des arbres. Toutes les plantes vont utiliser un petit peu de l'eau. Et la trogne, le fait de tailler les branches, va supprimer du feuillage à certaines plantes et donc limiter leurs besoins en eau. Et là, cette année, moi, je pense que ça va être l'année de la trogne. En tout cas, j'ai bien envie de lancer ça. Si on a des plantes, pas forcément les arbres fruitiers, ça, on n'a pas envie de les tailler, mais ce que j'appelle les plantes de service, hein. Des plantes qui vont servir à faire de l'ombre, des plantes pour la biodiversité, des plantes qui sont fixatrices d'azote au niveau des arbres. Eh ben, peut-être que cette année, ces plantes-là, on va pouvoir les tailler, les trogner complètement. En supprimant ce feuillage, ils vont moins avoir besoin d'eau, ils vont remettre des branches, ils vont en prendre un petit peu, forcément, mais moins que ce qu'ils auraient pris s'ils n'avaient pas taillé. Donc, il y aura plus d'eau disponible pour le reste des plantes à côté, donc déjà, premier service. Et puis en plus, toute cette matière qu'on va couper, on va la broyer ou la mettre au sol comme ça, donc limiter l'évaporation. Et troisième impact, qui va être plus sur le long terme, ça, en se décomposant, ça va apporter de l'humus au sol, qui va jouer en plus sur le long terme le rôle d'éponge. Donc voilà, on peut utiliser les différentes strates de plantes comme ça, en taillant les plantes les moins importantes pour que celles-là laissent de l'eau aux plantes les plus importantes à côté.
C'est encore dans notre actualité, hein, la sortie de l'ouvrage que tu as signé aux éditions Terre Vivante, hein, le guide Terre Vivante du Jardin Forêt par Rémi Kulik du Jardin des Merveilles de Vahour. Et tu me confiais que lorsque tu écrivais ce bouquin, tu avais déjà en tête ces notions de manque d'eau, mais que tu n'as pas forcément tout abordé ni tout dit. Qu'est-ce qui manque peut-être dans le bouquin que tu voudrais rajouter sur le manque d'eau?
Non, je crois avoir quand même tout abordé, mais... J'aurais pu pousser la réflexion encore plus loin. Après, non, vraiment, dans ce livre, j'ai mis tout ce qui est dans ma tête, c'est dans le livre. Ou presque, non, j'exagère un peu. Mais non, j'aurais pu réfléchir un peu plus sur quel type de stockage, comment la capter, comment capter un peu ce taux d'humus dans le sol, comment réussir à l'augmenter un petit peu, comment utiliser la vie du sol, qui est aussi une réserve en eau. Ce que je viens d'expliquer par rapport à la notion de trogne, je l'ai pas trop fait l'an dernier, mais là, je vais vraiment la pratiquer cette année. Donc, toutes les petites astuces, hein. Peut-être même on parlait de culture en zone aride, ben pourquoi pas aller dans des vraies zones arides. Allez, Vahour, c'est aride, mais peut-être aller, pourquoi pas, je sais pas moi, en Afrique du Nord, aller voyager un peu, prendre des vacances, mais aller voir comment ils arrivent à cultiver dans les déserts. Il y aura des choses à travailler. Et je me dis, peut-être pas tous les petits jardiniers qui vont vouloir bosser sur ce genre de choses-là, mais si le temps, le climat continue à évoluer de cette façon, il va y avoir énormément de choses à changer au sein du monde agricole, déjà, au sein de la vision globalement qu'on a de toutes ces pratiques-là. Donc, allez creuser encore plus là-dessus, quoi.
En parlant de creuser, je crois que on en a déjà un tout petit peu parlé dans une précédente chronique, je m'en souviens plus, mais pour t'avoir déjà vu mettre des plants en terre, tu avais une technique assez particulière. Toi, tu fais un trou et tu gorges le trou d'eau, quitte à en faire vraiment de la boue au fond. Tu malaxes bien bien le fond, que ce soit bien boueux avant de mettre ton plant en terre. Et tu m'as toujours expliqué que c'était en lien avec l'eau pour limiter les arrosages.
C'est ça. En fait, j'arrose avant plutôt que d'arroser après. Alors, petite précision déjà, ce que je vais expliquer, ce que tu viens d'expliquer, je vais le repréciser. C'est pas forcément comme ça qu'il faudrait le faire pour des sols trop argileux, le fait de faire de la boue là au fond du trou. Oui. Mais on pourrait le faire quand même. Si on a un bon taux de matière organique, encore une fois, ça sauve tout, on peut le faire. Mais l'idée, c'est surtout si on plante à une période où c'est pas trop humide, donc là, un peu tout le temps en ce moment, on fait le trou de plantation et on va remplir d'eau. On va voir l'eau descendre dans le trou, on remet de l'eau jusqu'au moment où l'eau arrête de descendre. En gros, on va saturer toute la zone en dessous de la zone de plantation, on va la saturer d'eau. Et ensuite, on va mettre la plante dans le trou, faire un peu de boue autour des racines. C'est pas le but de faire de la boue, c'est surtout de connecter le sol avec les racines. Que ce soit une plante à racines nues, très important, et même pour une plante à motte, faire un petit peu de boue autour de la motte avec la terre du sol va connecter le sol à la plante qu'on met en terre. Et ensuite, on rebouche le trou. On peut pailler éventuellement, mais surtout on n'arrose pas après. Puisque quand on va reboucher le trou, on va ramener la terre qu'on avait écartée avant de planter, et cette terre n'est pas forcément humide, et du coup ça va être sec en surface. Et ben c'est pas grave du tout, puisque c'est dessous que ça doit être humide et pas en surface. Et l'idée, et même par la suite, à partir de là on n'arrose plus, on n'arrose pas tant que la plante ne le redemande pas. Le sol va sécher petit à petit, les racines des plantes vont descendre petit à petit et aller en profondeur. Si on commence à arroser régulièrement, ça va être humide en surface, et les racines vont aller à cet endroit-là. Et dès qu'on arrête d'arroser, la plante a soif. Donc si on veut pouvoir partir en vacances quelques jours pendant l'été et pas avoir besoin d'arroser nos tomates ou de demander aux voisins de venir arroser tous les jours, c'est la bonne méthode. Les racines sont en profondeur, il y a moins besoin d'arroser. Et dernier petit truc, on va avoir des légumes qui seront meilleurs. Moins gorgés d'eau, déjà, et puis les racines en allant en profondeur vont plus avoir le côté terroir un petit peu. Les racines vont aller prendre les minéraux dans le sol en profondeur plutôt que de se gaver directement de l'eau d'arrosage qui est pas... Il n'y a pas de minéraux dans l'eau d'arrosage. Donc, plein d'intérêt.
Et là, on ne parle pas de théorie, c'est quelque chose que tu as essayé, pratiqué, et que tu fais toujours d'ailleurs.
Ah, depuis le début, quasiment, ouais. Ben, cette technique, bon, je ne l'ai pas inventée, hein. J'ai croisé un pépiniériste un jour qui m'en a parlé, mais sur mes débuts, hein, ça fait plus de 10 ans que j'ai entendu ça. Et moi, sur mon sol très sableux, très très sec, ouais, je le fais depuis le début et c'est important de le faire comme ça, oui.
Rémi Kulik du Jardin des Merveilles de Vaure, si vous voulez ben, le rencontrer, il sera ben, là ce week-end samedi à Saint-Antonin-Nobleval à 18h à la salle des congrès de la mairie, ouais, je crois que ça s'appelle comme ça, à la salle des congrès de la mairie, invité par la librairie Le Tracteur Savant pour présenter l'ouvrage qu'il a signé, qui vient de paraître, le guide Terre Vivante du Jardin Forêt. C'est aux éditions Terre Vivante, ça coûte 35€ et franchement c'est une tuerie. Je suis en train de le lire actuellement et mais bientôt on vous en parle à nouveau sur CFM Radio. Rémi Kulik, merci beaucoup.
Avec plaisir, bientôt.
D'un ouvrage à un autre, presque dans le magazine, à suivre Paul Sanda, qui est le co-auteur de Où est sang, l'ermitage des grands vents, un ouvrage plutôt poétique hein, qu'il présente ce week-end samedi à la Maison Fonpérouse à 17h30, un ouvrage co-écrit avec Bruno Geneste. Paul Sanda, que l'on retrouve après la musique. Tell me what their mouth said, get me off my knees.
CFM Radio, votre radio dans le Tarn.
Mais après le manque d'eau, on va parler peut-être de l'abondance d'eau avec un ouvrage poétique qui vient de paraître et qui sera présenté là ce week-end samedi par Paul Sanda à la Maison Fond Pérouse à 17h30. Le Paul Sanda nouveau est de sortie, un nouvel ouvrage où est sans l'ermitage des grands vents. Bonjour Paul Sanda.
Bonjour.
Un livre qui a été écrit à quatre mains avec ton fidèle compagnon Bruno Genest. C'est pas votre premier ouvrage. Et là, vous signez Où est sans l'ermitage des grands vents. Et on peut se dire que, ben, tiens, Paul Sanda, il sort des bouquins quatre fois par an. Mais celui-là, ça fait 10 ans que vous êtes dessus.
C'est ça. Exactement 10 ans. Ça, c'est un livre. En fait, on a été invité plusieurs fois par le conseil départemental du Finistère. Parce qu'en fait, sur l'île d'Ouessant, il y a un sémaphore qui sert de résidence d'écrivain.
Mmh. C'est un phare, hein, le sémaphore.
Ouais, c'est à côté du phare. C'est pas tout à fait un phare. Bon, ça ressemble un peu. La différence, c'est que c'était autrefois pour regarder la mer du point de vue avec des radars, etc. C'est un peu différent du phare qui est à côté avec sa lumière.
Qui tourne. Ouais.
Voilà. Ouais. Mmh. Mais, c'est un peu la même configuration. Donc là, c'est un phare, c'est un sémaphore, donc qui est désaffecté pour la navigation et donc qui est utilisé comme résidence d'auteur depuis pour des gens qui veulent se mettre un peu à l'écart du monde pour écrire. Et comme nous, on est Bruno, il est mon ami Bruno Genest, il est breton lui-même, et moi j'ai été élu en 2019 président de la Maison de la Poésie du Pays de Quimperlé, en fait. Donc, parce que j'ai l'habitude d'aller écrire en Bretagne, j'écris plusieurs livres là-bas, dont Les Surréalistes sur la Bretagne et la Bretagne, qui a eu d'ailleurs la bourse d'avant-garde de la Société Jean de Lettres. Enfin, j'ai écrit des livres comme ça. Et donc, le conseil départemental nous a plusieurs fois octroyé cette possibilité d'aller un mois dans ce sémaphore. On y a toujours été, on y est toujours allé l'hiver, en fait. Parce que c'est là que les choses sont intéressantes, on va dire, dans cette île du Grand Large.
On peut traverser à pied à marée basse aussi,
facilement. Absolument pas. C'est tout le contraire. Donc c'est l'île la plus éloigné du continent. C'est l'Amérique ou le Groenland. c'est comme on veut.
Vous êtes intéressé du coup dans cet ouvrage là, Où est sans l'ermitage des grands vents?
Alors c'est ça, c'est-à-dire que la différence avec tout ce qu'on voit ailleurs, alors il faut d'abord penser justement que c'est très loin, c'est-à-dire que c'est très difficile d'accès, enfin assez difficile d'accès. Il faut, alors surtout l'hiver, l'été encore ça va, il y a un peu de monde, de touristes l'été, mais l'hiver il y a personne. Et c'est extrêmement compliqué au niveau du climat. Mais il fait, alors entre Brest, on va dire le point extrême du Finistère, le Conquet plus exactement, et Ouessant, il y a encore entre 45 minutes et 1h15 de bateau s'il fait beau. Donc entre l'archipel des îles Molène qui est entre donc le Finistère et Ouessant, donc pour aller jusqu'aux îles Molène tout va bien, et après entre Molène et Ouessant, il y a un courant marin extraordinaire qui est le plus fort d'Europe, qui s'appelle le Fromveur, et qui est très très difficile à manœuvrer et dès que le temps est mauvais, et qui rend donc l'île un peu, et très souvent en hiver, inaccessible. Voilà. Donc c'est déjà un endroit très éloigné. Il faut voir que Ouessant, c'est assez grand. Ça fait 8 km sur 6. Avec, on l'appelle l'île nue parce qu'il y a pratiquement pas d'arbres. Et l'hiver, il y a 300 habitants répartis sur cette île. Et c'est très un endroit encore sauvage. Mmh. C'est ce qu'on a apprécié.
Et c'est ce que vous racontez un peu hein, dans cet ouvrage. C'est aussi vos impressions sur le lieu, des recherches aussi sur l'histoire du lieu.
Il y a trois grandes parties dans ce livre, parce qu'en fait, comme tu l'as dit tout à l'heure, on l'a fait sur 10 ans. C'est-à-dire 4 résidences en fait à des moments différents. Donc on a commencé en il y a longtemps déjà.
2012.
voilà, il y a 10 ans donc. Et on a fait, ça s'est échelonné, et on a fait notre dernière visite à Ouessant en 2018. Après, on a mis du temps parce que donc on a écrit trois parties. Donc il y a la première partie du livre. Explique la topographie, les gens, les rencontres qu'on y fait, les trucs étranges qu'il y a, parce que c'est vraiment un lieu à très très étonnant, et plein de mystères et plein de choses absolument bizarres, et dont on parle là. Alors on parle aussi de ces peuplements premiers, de tout un tas de choses. On y a découvert assez récemment, dans les années 2000, donc il y avait un village ancien qui date de plus de 4000 ans. On y a trouvé des poteries, etc. Et justement, on y a trouvé des manières de construire des maisons très particulières qu'on explique aussi dans ce livre. Après, il y a une deuxième partie qui est beaucoup plus poétique. Où, j'avais écrit un recueil... De poésie cette fois pour essayer d'apporter. Alors voilà, c'est la première partie, ça raconte un peu tout ce que je viens de vous dire. La deuxième partie, c'est plutôt un aspect très très poétique, et ce cahier central, qui est un recueil de poésie en fait, est traduit en breton.
C'est Faribalise, hein.
Ouais, Faribalise, exactement. Ouais. Mmh. Oui, parce que le musée, enfin le phare qui est à côté, c'est le musée des Faribalises en fait. Et le phare, un phare très magnifique d'ailleurs. Et puis une, donc très poétique, on va dire, le cœur du livre. Et la troisième partie, alors là, prend de l'élévation un peu, on va dire, méditative.
Un peu plus spirituelle.
Spiritualiste, on va dire.
Ouais.
Donc la première partie plus concrète, la deuxième plus poétique, la troisième plus spiritualiste. Ça fait une espèce de... En fait, de voyage intérieur parce qu'on peut pas découvrir la troisième partie avant d'avoir vécu les deux premières. Enfin, c'est ça. Donc c'est un cheminement. Il faut bien penser que c'est un cheminement sur plusieurs années. Et avec une découverte peu à peu profonde.
Et ce cheminement nous sera raconté, expliqué hein, ce samedi à 17h30 à la Maison Font-Pérouse, où tu vas présenter cet ouvrage « Ouessant, l'ermitage des grands vents », un récit de Paul Sanda et de Bruno Genest, d'après l'ouvrage qui est paru aux éditions des Montagnes Noires, un livre qui s'adresse autant aux amoureux de la Bretagne, aux amoureux de la poésie, mais aussi à tous ceux qui s'intéressent à toutes ces notions en lien avec la spiritualité, la méditation.
Oui, et ceux qui ont envie de faire des grands voyages et de faire des voyages un peu différents.
La conférence est gratuite, bien évidemment, Paul Sanda. C'est donc à 17h30, hein, la Maison Font-Pérouse, c'est la mairie de Cordes tout en haut de la cité. Vous allez occuper un espace pour pouvoir échanger autour de cet ouvrage.
Absolument.
Merci beaucoup d'être passé nous voir.
Merci beaucoup, Jacques.
Et c'est peut-être le moment de boire un verre d'eau. Sur cette note hydrique s'achève le magazine du jour. Les informations à suivre tout de suite sur CFM Radio.